On avait peur qu'il pleuve, mais finalement, c'est le soleil qu'on a, donc c'est chouette. Bon, vous êtes un peu loin, mais on vous comprend. C'est pas du désamour, hein, c'est juste que... Bon, voilà, on comprend ça. Bon, il y a un gros nuage qui arrive, donc dans quelques instants, on va pouvoir être tranquille. Bon, allez, on va démarrer cette table ronde. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Je ne me suis pas présenté tout à l'heure. Moi, je suis Laurent Chicoineau, donc le directeur de la CASMAT, ici. Et je suis très content avec mon équipe, qui est Thibault, et les autres qui sont je ne sais plus où. On est très content de vous accueillir pour ce lancement des dixièmes du numéro 10 de la collection Petite Bulle d'Univers. Et puis, pour tout ce travail que nous avons suivi, donc, vous avez suivi et que nous avons suivi depuis, en fait, la Maker Faire, c'était en octobre dernier, en 2015. Où Laura et Philippe étaient présents à l'ancienne patinoire à Grenoble pour réaliser en direct live des petites poupées devant le public. Et puis après, ça a été l'aventure donc, du crowdfunding, l'aventure du financement participatif pour lancer donc, ce dixième numéro. Donc si vous êtes là, c'est sûrement que vous avez contribué à ce crowdfunding. Donc merci à tous déjà et toutes pour ce suivi. Donc ça a duré en plus il y a du ça a duré 45 jours et en 45 jours donc vous avez réussi à lever 9 771 euros très précisément. Donc bravo pour cette performance déjà. Et puis grâce à ce financement, donc grâce à vous, ce dixième numéro des Petites Bulles d'Univers a pu être édité. Il est encore plus beau que les précédents. Et puis, en même temps, pour certains qui vous ont soutenu de manière un peu plus engagée, il y a également des très beaux coffrets avec des tirages numériques en série limitée qui ont été édités et qui vous seront remis après cette table ronde à partir de 17h au moment des signatures, des dédicaces et puis donc des remises des contributions, des remises des contreparties à tous les kiss bangers, comme on dit ça. Alors, on va discuter, on va prendre une petite heure pour justement parler un peu plus en détail de cette initiative, de cette collection, de cette démarche entre art et science, entre art plastique, littérature et science-fiction. Pour ça, on a autour de la table donc un panel d'exceptions avec à la fois, donc je commence par ma gauche, donc Licam, qui est directrice littéraire de cette collection et puis auteur de science-fiction, puisque tu as écrit, alors bon, je ne les connais pas par cœur, c'est dans le track, je vais encore dire des âneries, tu as écrit donc Bobot, La Petite Bébête, L'Arbre de l'Ombre Abattue et Fuite de Fluide dans la collection, et puis ailleurs, puisque aussi tu publies dans d'autres. Chez d'autres éditeurs, tu as notamment commis la Chronique des Striges, qui en est à son deuxième volume, si je ne m'abuse. On attend avec impatience le troisième, et si vous croyez avoir déjà tout lu sur les histoires de vampires, essayez la Chronique des Striges, vous risquez d'être surpris. À gauche, Laura Vicedo. Donc Laura, toi tu es graphiste, plasticienne, donc un des deux piliers, on va dire, du studio d'Esperado. Et aussi plasticienne, avec tout un travail qu'on a pu voir, qu'on a pu découvrir dans l'expo tout à l'heure en bas, autour des poupées. Et puis donc tout un travail autour de la sculpture, tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure. Donc le studio d'Esperado, c'est un ami de la CASMAT, puisqu'on a fait déjà un certain nombre d'expositions ensemble, d'affiches, de travail, de graphisme. Il y a également Philippe Oreille dans la salle, qui se cache quelque part, qui est derrière le... Voilà. Qui est le deuxième pilier de ce studio d'Esperado. Ensuite, nous avons Pierre Bordage. Alors, Pierre Bordage, j'ai envie de dire, on ne le présente plus. Hein.
Il n'est pas venu à Grenoble depuis 2004.
Ah oui, il n'est pas venu à Grenoble depuis 2004. Alors, bon, bah, Pierre Bordage, qui êtes-vous, Pierre Bordage? Vous êtes auteur de science-fiction. Vous êtes artiste peintre aussi, quelque chose qu'on sait moins et qu'on voulait.
Pas non plus, d'ailleurs.
Voilà, et qu'on voulait en parler aussi aujourd'hui, puisque on va s'intéresser aux relations entre art et science et les différentes formes d'art et de science. Alors, vous êtes connu pour un certain nombre, beaucoup d'ouvrages, notamment Les Guerriers du Silence. Voilà les cycles de Wang aussi, des romans de space opéra, mais vous avez aussi écrit pas mal de scénarios de cinéma, notamment, dont avec Marc Caro, de théâtre, de bande dessinée. Et ce qui nous intéresse chez vous, c'est que vous avez une approche humaniste assez forte C'est-à-dire quand vous écrivez de la science-fiction, c'est pas forcément pour décrire de la technologie, mais c'est beaucoup plus pour s'intéresser aux relations avec les hommes et entre les humains. Et ensuite et enfin, pour cette présentation, Sylvie Lainé. Donc Sylvie Lainé, vous êtes aussi auteur de science-fiction. Vous avez compris, c'est une table ronde avec des auteurs de science-fiction. Donc Sylvie a notamment eu le Grand Prix de l'Imaginaire 2015 et également le Prix Bob Morane 2015 pour une novella, l'opéra de Chaya, un texte assez étonnant qu'on aurait pu aussi présenter dans cette exposition, je pense, parce que c'est vrai que vous avez un intérêt assez fort pour les relations humaines. Alors Sylvie est aussi chercheuse, hein, universitaire, donc professeure en sciences de l'information et de la communication à côté, à Lyon. Donc vous avez un intérêt assez fort pour les relations humaines et extra-humaines, l'empathie avec les extraterrestres ou avec les écosystèmes, des choses qui sont assez étonnantes et qui permettent d'explorer justement la manière dont nous, les humains, on réagit à tous ces environnements parfois un peu bizarres. Alors, pour démarrer cette table ronde, on va tout de suite peut-être discuter, enfin présenter cette collection, hein, puisqu'on est là autour du dixième numéro des Petites Bulles d'Univers. On va présenter cette collection, qui est une collection assez spécifique, puisqu'en fait, elle associe à chaque fois un plasticien et puis un auteur de science-fiction. Et donc, pour terminer les présentations, les plasticiens, on a Laura autour de la table, mais dans la salle, sur la terrasse, il y a d'autres plasticiens. Il y a Bruno Loret. Bruno Loret qui est ici. Donc, Philippe Aurey, j'en ai parlé.
Là-haut.
Il est là-haut sur la machine, c'est interdit d'être sur la machine. Francis Olivier Brunet.
Il est là.
Ah, bah voilà.
Avec les lunettes sur le.
Parfait. Et puis Jean-Emmanuel Aubert qui prend des photos, qui s'assoit, qui se lève, on ne sait pas ce qu'il fait. Voilà. Et il y a certains auteurs aussi qui ont participé à cette aventure. Karim Berouka et Alain Damasio qui ne sont pas présents aujourd'hui parmi nous. Et puis je voudrais aussi citer Didier Gibelin qui est présent ici, donc le responsable administratif de Organic Edition.
Et le fondateur d'Organic.
Et le fondateur, effectivement, d'Organic qui au début
a travaillé.
Voilà, qui a commencé dans la musique et qui maintenant est aussi dans la littérature et les littératures de l'imaginaire. Voilà. Donc, pour démarrer, peut-être, Likam, une présentation, si tu peux nous redire le principe de la collection. Et puis, on passera la parole à nos invités pour savoir comment, eux, ils sont intégrés dans cette aventure.
On va parler un petit peu de l'histoire, en fait, de la collection Petites Bulles d'Univers. Donc, en face de moi, j'ai Didier, qui, lui, a créé le label de musique organique en 1987. Et en l'an 2000, on a eu un petit souci, on a perdu notre distributeur, donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous m'entendez ? Oui ? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et on était tous plus ou moins des fans de musique, mais tous aussi des fans d'art plastique. Et on avait beaucoup de plasticiens parmi nous, et un auteur, qui était moi, je suis la seule. Et on aimait beaucoup les livres, et notamment les livres pour enfants. Et on s'est dit, on va faire des livres qui parlent aux adultes aussi, des livres illustrés, pour les adultes avec des âmes d'enfants. Et c'était là, l'idée a commencé comme ça. Après, on s'est dit que ce qui serait bien, c'est pour pouvoir mettre l'image vraiment au centre de la collection, ce serait de partir de l'image et de faire le texte autour. Et on voulait faire appel non pas à des illustrateurs, mais à des plasticiens, parce qu'on avait des plasticiens parmi nous. Donc on a réfléchi à comment faire travailler des auteurs sur un univers plastique. Donc, quand je dis on a réfléchi, bon, finalement c'est quand même moi qui réfléchis, parce que c'est moi qui ai fait les trois premiers. C'était une expérience tout à fait... oui, je suis masochiste. C'était une expérience nouvelle. Et c'est une expérience qui n'est pas toujours évidente à faire quand on n'a pas l'habitude de travailler l'image. En fait.
Donc le point de départ, c'est l'image plutôt que le texte.
Oui. On part du travail d'un plasticien, de plusieurs œuvres en fait, d'un maman dans la vie d'un plasticien. Donc un maman dans la vie d'un plasticien, ça peut être une dizaine d'œuvres, comme ça peut être une centaine d'œuvres, qu'on transmet à un auteur, Pierre Bordage, Sylvie Lainé. Et c'est à l'auteur de s'approprier le travail pour en faire un texte de fiction. Alors il s'avère qu'on fait toujours appel à des auteurs de science-fiction, parce qu'on les connaît, parce qu'on sait qu'ils sont souples.
Ils
Et parce qu'ils ont aussi bien souvent une approche. Oui. Ils sont souples, ils sont très un peu cons comme dit. Ils ont souvent aussi une approche un peu multidisciplinaire, c'est-à-dire que pour écrire de la science-fiction, il faut s'intéresser aux sciences, il faut s'intéresser au monde, il faut avoir l'esprit vraiment très ouvert. Et même si on n'a pas l'habitude de travailler les arts plastiques, il y a une ouverture d'esprit qui fait qu'on peut s'approprier facilement ce type d'univers. Donc voilà, la collection Petite Bulle d'Univers, en fait, c'est un terrain de rencontre entre un auteur, un plasticien, et l'alchimie est faite par un graphiste, Philippe Oreille. C'est lui qui a en charge, en fait, le fait de choisir les œuvres qui figureront finalement dans l'ouvrage, parce qu'on part de 100 œuvres, mais des fois, il y en reste peut-être plus qu'une dizaine dans le livre. Et c'est lui qui leur donne vie, en fait, dans l'ouvrage.
Alors, du coup, du point de vue des auteurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est facile de fonctionner de cette façon? Parce que c'est vrai que pour les livres illustrés, habituellement, on écrit un texte et puis ensuite, on a un graphiste qui va illustrer. Là, c'est un renversement de situation. Pierre, peut-être pour commencer, comment ça se passe?
Très très mal.
Chouette. Alors racontez.
Non, c'est il y a deux aspects dans le travail. Il y a les idées qu'on a soi-même et qu'on exprime par le roman, par la nouvelle. Et il y a la provocation. C'est-à-dire on est provoqué par un élément extérieur. Et j'adore ça. J'adore être provoqué. Comme ils disent, écrit une nouvelle à propos de ci, de ça, de n'importe quoi, de l'avenir de la poste, faire une nouvelle de science-fiction avec l'avenir de la poste, c'est pas évident, on peut y arriver. Quand j'ai vu les œuvres de Laura, parce qu'après Manu et Lika m'avaient contacté pour que je fasse. Contacté depuis un certain temps déjà.
Oui, c'est bon. Ouais.
Je suis dans la détente. Et quand j'ai reçu le travail de Laura, je me suis dit, j'ai tout de suite enfin, accroché à son travail. Genre, j'ai beaucoup aimé le travail, peut-être on pourra parler plus tard, enfin, ou je vais en parler maintenant d'ailleurs. J'ai vu vraiment une belle parabole sur l'enfermement et la souffrance. Le fait d'être piégé, non seulement dans une boîte, dans une prison, mais aussi que l'âme de quelqu'un soit piégée dans de la matière, quoi. Ça m'a beaucoup parlé. Après, je me suis dit, l'étrangeté, parce qu'il y a un aspect très étrange dans son travail, qui interpelle énormément. Moi, ça ne me dérange pas. Tout à l'heure, on a dit, ça peut déranger, mais ça ne me dérange pas, ça m'interpelle vraiment. Je me dis, il y a quelque chose. Et en plus, ces poupées, qui sont des objets inertes, ont une puissance de vie assez incroyable. C'est-à-dire qu'elles ont une expression dans le regard qui nous transperce, quoi. Et donc, comme je suis un auteur de science-fiction, j'ai balancé ça sur une planète lointaine. Ça mange pas de pain. Et non, c'était pour souligner l'effet d'étrangeté et le côté découverte de la chose. Je voulais que ce soit un personnage qui découvre ça et qui s'interroge sur ce monde de poupées et pourquoi elles étaient là, ce qu'elles faisaient là et qu'est-ce qu'elles signifiaient, quoi. Et qu'est-ce qu'elles lui apprenaient. Et voilà, donc je suis parti. Faut bien dire que les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc je suis parti, c'est Audiard, hein, c'est pas moi. Je suis parti un matin à fond, quoi, parce que les mots me venaient naturellement. Quand j'ai reçu le travail, j'ai passé un certain temps d'incubation. Et puis, c'est vraiment parti. L'ICAM m'avait dit si j'ai des problèmes pour interpréter ou pour avoir une idée de l'œuvre, j'ai pas eu besoin de l'appeler en fait. À aucun moment, parce que ça m'a parlé immédiatement droit au cœur, quoi. Donc, je trouve ce travail d'une exceptionnelle qualité parce que vraiment, elle transmet la vie à travers de l'inerte, et ça, c'est vraiment, le graal du plasticien.
Alors, on est obligé de demander à Laura, comment toi, tu reçois ce texte de Pierre. Il faut dire que c'est une des premières fois que vous vous rencontrez, en fait.
C'est la première fois
que vous vous rencontrez, en plus. Donc, vous voyez un petit peu toute la tension de la situation de l'âme de l'émission. Laura, comment toi, quand tu as découvert ce texte, comment ça t'a parlé? Comment tu as reçu ça?
J'aurais pas d'aussi belles paroles que Pierre, parce que j'ai pas l'habitude de parler en public. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai lu le texte, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est quand j'ai vu la description de la première boîte, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce qu'il va raconter? Oh, mais c'est pas possible et tout, mais qu'est-ce qu'il va dire et tout. Et en fait, j'ai pas du tout été déçue. C'est vrai qu'il a réussi à dire par des mots ce que moi je dis par les images. Donc, une bonne harmonie de l'ensemble pour moi, parce que c'était vraiment c'est vraiment sur ça que je travaille, sur cet enfermement, sur la perte de liberté, sur l'emprisonnement, et à travers sa description de tous les personnages, les figurines comme il les appelle, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment lu ce que je voulais dire par l'image.
Merci. Bien, on va revenir un petit peu plus tard à Vauclindo. Je voudrais que Sylvie, tu nous dises aussi, toi tu as donc commis le texte L'Animal avec Francis Olivier, donc, qui est là-bas, et voilà, que tu nous dises aussi comment ça s'est passé à partir de des images et des peintures donc de Francis Olivier, qui peut peut-être d'ailleurs venir un peu par là pour nous en parler aussi, s'il a envie.
Alors, moi, ça fait longtemps que je connaissais la collection La Petite Bulle d'Univers. Je suivais le travail de Organique depuis ses débuts. Et un jour, Likam et Manu, ça fait déjà un moment qu'on pensait à faire quelque chose ensemble, mais on ne savait pas trop quoi. On avait même ébauché une ou deux tentatives qui avaient tourné court. C'est pas si facile de démarrer un projet comme ça. Et puis un jour, ils m'ont envoyé tout un tas de tableaux d'un peintre que je ne connaissais pas du tout, qui s'assoit à côté de moi. Je peux plus dire des bêtises. Et ben justement, c'était des tableaux. Alors moi, je ne suis pas du tout plasticienne ou graphiste. Je ne sais travailler qu'avec les mots. En images, je suis archi nulle. Et quand j'ai vu les tableaux de Francis Olivier, j'ai été franchement surprise. Je l'ai trouvé fascinant, mais il me mettait assez mal à l'aise en même temps. J'ai pas eu une réaction de... Comment dire, je suis pas rentrée facilement dans cet univers. Donc il m'a fallu un petit temps d'incubation. Et plus je les reprenais, plus elle commençait à dire des choses. Et puis je savais que le principe normal était d'écrire une histoire. Mais en fait, moi, il s'est passé quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que j'ai pas eu une histoire qui a émergé de tout ça, j'ai un personnage qui a émergé des tableaux, une espèce de personnalité un peu psychopathe, il faut bien le dire, hein. Enfin pas franchement sympa.
Je crois qu'on peut le dire.
Mais avec beaucoup de finesse et de l'humour en même temps, un drôle de personnage qui exprimait la relation ambiguë que moi j'avais au tableau. Et en fait, ce personnage, il s'est mis à monologuer, c'est-à-dire que à partir du moment où il a pris corps pour moi, j'ai pris un crayon, il s'est mis à monologuer, et j'en ai écrit, je sais pas, un tiers, enfin, 5 ou 6 pages. Et puis là, j'ai appelé Likam et Manu, et je leur ai dit, je suis en train de faire un truc, je sais pas ce que c'est. C'est pas une nouvelle, c'est un truc bizarre. Faut que vous me disiez si je continue, parce que franchement, je sais pas du tout si je joue le jeu de la collection. Donc là, ils m'ont dit, ça va, tu peux y aller. Ils sont assez permissifs, finalement. Donc ils m'ont laissé aller jusqu'au bout, et là où j'ai eu la trouille, c'est que je me suis dit, mais comment va réagir Francis Olivier Bruni, que je ne connaissais pas du tout. On s'est rencontrés après la parution du bouquin, comme Pierre et Laurent.
Alors, on a envie de savoir, Francis Olivier, comment avez-vous réagi?
Il ne l'a pas vraiment dit encore.
Ah, en plus, c'est un scoop, attention.
Il ne l'a pas lu.
Voilà. Merde.
Bah effectivement je suis tombé malade bien après.
Donc, c'était pas
rassuré. De mon côté, j'allais aussi vers des tas de surprises, vers des tas d'étonnements. Mais en tant que plasticien, artiste, peintre, dans un atelier tout seul, je prends le concours après ça. Et c'était véritablement une très bonne surprise, déjà d'avoir cette proposition un jour qui tombe dans ma boîte aux lettres en disant voilà ce qu'on fait. Je vous propose trois livres de collection, on aimerait bien en faire un avec vous. Est-ce que vous êtes partant? J'ai ouvert le courrier, j'ai tout de suite téléphoné pour dire oui. Et à la fin, pour répondre précisément votre question sur ce que ça m'a fait. Je crois que, en fait, Sylvie, même si elle s'est servie d'un psychopathe, c'est pas grave du tout. Hein, ce qui est intéressant, c'est pas le psychopathe, mais c'est toute sa part d'humanité qui l'anime. Et dans ma peinture, je crois qu'il y a ça, il y a toujours une frontière, une fragilité entre ce qui est humain, ce qui est proprement bestial, ce qui est concevable, ce qui n'est pas, ce qui est fragile, ce qui est solide, ce qui est bien dansant, ce qui n'est pas du tout. C'est un rapport entre tout ça. Je crois que la vie est peut-être juste au milieu, et je crois que cette vie, elle a vraiment suscité ce côté-là. Alors mes peintures racontent pas d'histoire, mais elles sont juste à la frontière. Et c'est un livre qui l'est. Et je crois que pour cela, elle a vraiment ta vie juste.
Parfait, mais dis donc. On va peut-être revenir sur Boxing Dolls, puisque c'est l'actualité de cet après-midi. Donc si on rentre un petit peu dans le détail, alors on ne va pas forcément tout raconter, parce qu'ici je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, si je ne m'abuse, hein, puisque voilà, donc on va pas complètement spoiler le texte. Simplement, bon, puisqu'on est aussi sur ces rapports entre l'art et la science, la technologie, la culture, peut-être c'est intéressant, ce texte, il nous a, enfin moi, il m'a aussi beaucoup parlé sur cet angle-là, c'est-à-dire que c'est l'histoire en fait d'un scientifique, c'est quelqu'un qui est en train d'explorer une planète, et là, tout d'un coup, il va faire une découverte de l'une des poupées de Laura. Il va faire une découverte et qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il va perdre sa scientificité ? Comment il va être transformé par cette découverte ?
Il va perdre la tête, oui.
Il va perdre la tête.
Une grande partie de mes livres, je pense, parle du conditionnement. Le conditionnement scientifique est un conditionnement comme un autre. Pas de taper, s'il vous plaît. Souvent, mes personnages sont en quête du déconditionnement. Et il se trouve que ce qui va le déconditionner, qui va l'amener à même pas penser différemment, mais ressentir différemment, c'est la vision de ces poupées dans les boîtes, parce que les poupées dans les boîtes vont faire vaciller sa raison, tout simplement. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui se passe, et il ne veut pas l'expliquer par la raison. Et donc, il va être obligé de s'ouvrir à un autre champ de perception, qui va lui faire quasiment communiquer avec ces êtres piégés dans la matière, et donc réviser complètement tous ses acquis de scientifique. Un petit peu comme la physique quantique avait remis tout en cause la physique mécanique de la fin du 19e et du 20e. Donc on est obligé de penser différemment, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que je pense écrire des livres pour essayer un truc, mais c'est une ambition démesurée déjà, je suis bien conscient, c'est de changer d'un degré ou deux degrés le point de vue du lecteur. Ah, on peut peut-être penser juste un peu différemment, on peut avoir des choses, des événements, des paysages, des gens, une perception entièrement neuve, ou un petit peu neuve quand même. Et donc, je pense que l'essence, on dit qu'un auteur écrit toujours creuse toujours le même sillon, et je pense que c'est vrai, je creuse toujours ce sillon-là, c'est comment se sortir des conditionnements, à la fois religieux, sociaux, sexuels, scientifiques ou pas, et donc de trouver une autre voie, parce que il me semble, et là c'est un débat qu'on pourrait lancer et qui pourrait nous prendre jusqu'à très tard la nuit, il me semble que la pensée matérialiste elle est finie et qu'elle ne m'intéresse pas. Disons que ce qui m'intéresse c'est justement les éléments qui peuvent déclencher une autre vision de l'humanité qui sortent de la pensée matérialiste qui semble être la norme de notre époque et qui encore une fois ne m'intéresse pas trop. Pas dans le sens où elle n'est pas utile, hein, je veux dire la technologie est utile, mais dans le sens où elle ne nous amène pas beaucoup plus loin finalement, parce que nos sociétés, je m'éloigne du sujet, j'ai l'impression.
Non, pas du tout.
Parce que nos sociétés reproduisent toujours le même schéma guerrier, le même schéma de domination, et la technologie n'y change rien, strictement rien, sauf qu'elle donne plus de puissance, puisqu'on a une meilleure maîtrise des mécanismes de la nature. Mais dans le fond, l'humain ne change guère, on est toujours au proie aux mêmes jalousies, aux mêmes violences, aux mêmes enfermements dans les boîtes. Il y a une chanson de Vera White, qui est une chanson d'Elizabeth Cotton, d'une autre chanteuse américaine qui s'appelle Petite boîte, très étroite. Et l'œuvre de Laura m'a beaucoup fait penser à cette chanson, Petite boîte toute pareille, toute faite en tiki-taki. Et on est une humanité, elle est toujours dans ces petites boîtes. Et voilà, je cherche comment une fois pour échapper aux petites boîtes, pour sortir des petites boîtes.
Je vais juste juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, c'est aussi ça, la collection Petite Bulle Univers. C'est sortir des sentiers battus. Et c'est une collection qui est partie d'une idée. On ne voulait pas faire des livres comme tous les autres livres. On voulait faire les livres qu'on voulait, nous, lire. Et c'est vrai que du coup, c'est des livres qui sont hybrides, qui parfois surprennent, qui parfois ont aussi du mal à trouver leur place dans les librairies, puisqu'ils sont, ils ont un format différent, ils ont un look différent. Ça, on est à cheval entre le livre d'art et la littérature. Donc on est très loin du conditionnement habituel en librairie, enfin de l'industrie du livre.
Oui, c'est vrai que c'est une aventure assez particulière quand même, parce que vous réalisez à peu près tout vous-même. Donc il faut le dire, avec Organic Édition et puis évidemment Philippe Auré qui fait la maquette de tous ces ouvrages qui sont imprimés en France à Grenoble, on peut le dire aussi. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tout un réseau là qui est mobilisé, puisque c'est à l'imprimerie des Deux Ponts que vous travaillez sur ces ouvrages. Tu dis que c'est compliqué de les mettre en librairie. Là, on a Fred de Omerveille qui est présent, donc qui présente un certain nombre d'ouvrages. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça aujourd'hui? Pourquoi c'est compliqué de le présenter en librairie?
Parce que c'est un livre qui est hors format. Il est hors format de plusieurs points de vue. Il est hors format. Format longueur, largeur. Il est hors format. On n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans les arts plastiques. Il est hors format aussi littéraire. On n'est pas forcément dans la science-fiction. On fait appel systématiquement à des auteurs de science-fiction, mais on peut écrire aussi d'autres textes. C'est en fonction de ce que le plasticien amène et de ce qu'il inspire, l'auteur, que le texte prend vie. Et des fois, c'est de la science-fiction. Pierre nous a fait un space opéra. Mais des fois, on est très loin de la science-fiction. Donc même au niveau du genre, on est assez inclassable.
Oui, ça ne rentre pas dans les cases. Est-ce que les plasticiens, donc Laura, Francis Olivier, la science-fiction, c'est quelque chose que vous lisez? C'est quelque chose qui est proche de votre univers de référence, d'inspiration, ou pas du tout?
Alors, en littérature, pas trop. Non, j'ai du mal quand c'est... parce que souvent, je me perds. Souvent, je me perds dans la littérature de science-fiction. Par contre, j'adore les films de science-fiction, quand ils sont bien faits. Donc, j'aime l'univers de la science-fction, mais j'ai du mal à lire. De Pierre, j'ai lu que son livre sur son policier, donc c'est pas...
Je m'en vais comme un prince.
Je l'avoue. Mais je vais... Il y a Didier, donc, qui est ici, d'Organique, qui est un grand fan et qui a tous les livres, donc là, je vais être obligée d'essayer, en tout cas.
Non.
Essayer, je pense. Ouais.
Francis Olivier, la science-fiction, c'est un univers de référence, d'inspiration?
Oui, je vais être honnête, je lis assez peu. Je lis surtout quand je suis en vacances. Et comme je travaille beaucoup, je lis assez peu. Quoi.
Et je suis en vacances.
C'est vrai, je crois qu'il y a beaucoup de parents qui sont comme ça, même si la littérature, c'est quelque chose qui nous touche profondément. Mais au niveau de l'implication, on se réserve plus pour les images. Et c'est l'énergie qu'on va passer, l'énergie et le plaisir, hein, bien sûr, qu'on va passer dans la lecture, il ne sera malheureusement pas forcément sur la toile ou sur le papier. Et pour répondre plus précisément à l'univers de la science-fiction, naturellement, je suis assez. Enfin, je suis pas très très proche par ce que je fais par la science-fiction. Justement, moi, c'est ce qui m'intéressait, c'était d'avoir affaire à un auteur de science-fiction, parce que c'est vraiment honnête. Moi, j'adore encore une fois la surprise, et la surprise utile, la surprise qui enrichit, et là, en l'occurrence, c'est le cas.
Alors, question réciproque, hein, on va dire aux auteurs, comment vous, est-ce que le monde, enfin les images, les arts plastiques, est-ce que c'est, Sylvie, Pierre, Licam, est-ce que c'est une source d'inspiration pour vous? Est-ce que vous avez, comme ça, des visuels en tête quand vous démarrez une nouvelle ou quand vous démarrez un roman? Et est-ce que, question subsidiaire, mais est-ce que l'actualité d'aujourd'hui, les images qui sont produites aujourd'hui, ça vous inspire particulièrement? Et si oui, quoi? Et j'arrête les questions.
Ce que je voulais dire.
Je peux commencer par...
Vas-y.
Non, D'accord. Alors, ma question était pourrie. Donc,
c'est pas pourrie, c'est la relation qu'on a avec les arts plastiques et tout ça. Ben, moi, j'ai toujours été intéressé par les arts plastiques. Ça y est.
Ok, ça s'est fait, on coche.
Tac, ça c'est bon. Je suis allé voir plein d'expos, en fait. Je suis allé voir Soulages, je suis allé voir Dali, je suis allé voir les impressionnistes. J'intéresse beaucoup au mouvement pictural, en fait. C'est un vieux rêve pour moi de m'exprimer par l'image, mais il se trouve que je me suis exprimé par le mot, mais mes rêves d'enfance c'était vraiment de m'exprimer par l'image, sauf que j'ai suivi une filière littéraire, donc je me... Et concernant les images qui peuvent provoquer des choses, oui, alors il y a une image qui m'a... Bon, c'est une image qui n'est pas très sympa, mais qui est un avion s'écrasant dans une tour à New York. Ça, c'est une image. J'étais au téléphone avec un ami new-yorkais. Il me dit, regarde la télé. Je regarde la télé, je vois l'avion qui s'encastre dans la tour. Cette image-là était tellement forte qu'elle m'a inspiré un livre qui s'appelle L'Ange de l'Abîme. Non pas d'ailleurs à cause de l'attentat, qui était lui-même spectaculaire et tout ça, bon bref, et qui était horrible en soi-même, mais à cause de la réaction américaine qui semblait dire, on va aller casser la gueule aux autres là-bas qui sont des méchants, mais nous sommes des gentils. Et je dis, ok, moi en tant qu'auteur de science-fiction, par rapport à cette image-là, qui avait sidéré le monde, qui avait effrayé le monde, je vais pouvoir pousser l'idée de George W. Bush plus loin. Je vais faire la guerre que lui il promet. Et on va bien voir ce que ça donne, si c'est aussi agréable que ça, une guerre, s'il n'y a vraiment que des méchants et que des gentils d'un côté. Et donc j'ai écrit L'Ange et l'Abîme comme une urgence, parce qu'il me semblait que le monde partait sur un chemin de destruction totale, ce qui est un petit peu le cas au Moyen-Orient actuellement. Je pensais que ça allait être encore plus le cas que ça, avec une sorte de guerre organisée entre la chrétienté et le monde musulman. Donc ça, c'est une image, c'est l'image elle-même qui m'a donné cette inspiration. Et puis, j'ai vu aussi le retable d'Ixelles-Lissenheim, je ne sais pas si vous entendez pas, la contemporain de Jérôme Bosch, puis c'est un peintre allemand. Et c'est un retable qui, donc on ouvre les volets à chaque fois, on découvre des scènes différentes. Et je me dis, mais c'est de la BD ce truc. C'était incroyable. Hein. Je me suis retrouvé devant la BD moderne, avec des créatures un peu bizarres, de la fantaisie pure. Hein. Avec une sorte de modernité de forme et de dessin qui était tout à fait étonnante, et ça avait été créé, peint au XVe siècle. Je trouve qu'il y a vraiment... par rapport à l'écriture, après, ce qu'on écrit... Alors, je pense qu'il y a des auteurs qui sont des écrivains d'image, c'est-à-dire qui ont l'image en tête de ce qu'ils écrivent. Il y a des écrivains sensitifs, c'est-à-dire qui ressentent plutôt ce qu'ils écrivent. Et moi, en tant qu'écrivain, je suis plutôt insensitif. Parfois, je crayonne à côté de mon ordi. Je crayonne mes personnages pour mieux les figurer, parce que avec l'écriture, j'ai un peu de mal à me les représenter. Il faut que je les dessine pour pouvoir les matérialiser. Donc je suis plus fait partie de... Alors, certains auteurs, je ne sais pas si Sylvie c'est ça, mais qui ont l'image en tête et qui décrivent l'image qu'ils voient.
Alors moi non, je commence pas avec des images, mais je réfléchissais à la question de la relation image-texte. Moi, j'ai beaucoup plus eu l'expérience d'images, évidemment, qui arrivaient après les textes. J'ai un illustrateur, Gilles Francescano, qui illustre à peu près tout ce que je fais, pour mon plus grand bonheur. C'est toujours... j'attends de voir comment ça a parlé à Gilles, comment je le traduis, qu'est-ce qu'il en a fait. Et je suis toujours surprise par ce qu'il a fait, d'ailleurs. Mais c'est... je suis émerveillée, mais... temporellement, le texte est venu avant. Et je me disais, quand on est des grands lecteurs, je pense qu'on est quand même pas mal de grands lecteurs ici, souvent, on voit les films au cinéma après avoir lu le bouquin. Donc là encore, on s'est fait... On a lu, et puis on a eu les images de quelqu'un qui sont arrivées après. Et puis on a fait avec, on a transformé nos propres images. Mais c'est... Moi, ça m'est pas arrivé. C'est l'unique circonstance de ma vie où l'image a été première et m'a obligée à... C'est un plaisir, hein, tu le prends pas mal, Francis Olivier. Mais où je me suis retrouvée dans un univers qui était très, très différent de mes univers à moi. C'est vrai qu'on est... On a des thèmes, on a des personnages, on a sans doute tendance à les recréer. Et là, c'était sacrément dépaysant pour moi. Donc, l'image première... C'est génial si elle oblige des paysements. Là, c'était vraiment réussi.
Lucas ?
Moi, les mots, ça m'est venu très tard. J'ai commencé par la musique.
Goût organique.
J'ai commencé par être chanteuse de rock, en fait. Dans les années 80. Donc plus personne ne s'en souvient.
Si, je pense que dans l'assistance, il y en a quelques-uns qui s'en souviennent.
Donc d'où organique, effectivement, d'où le fait que c'est commencé par un label de musique. Et j'ai une relation. Par contre, le fait d'avoir toujours été avec des musiciens, avec des plasticiens et jamais avec des auteurs, ça me plaçait dans une situation un peu étrange où j'étais la seule à manier les mots dans un collectif ou entouré de gens qui, eux, ont une approche, on va dire, plus simple, plus sensitive, plus émotionnelle, plus directe avec la pensée. Et pour parler de ma relation avec l'image, j'écris parce qu'en fait, je ne sais pas peindre. Et je décris, en fait, j'ai vraiment des images. Ça commence toujours par des images, en fait, par une première image. Un roman, ça peut partir d'une seule image. Qui un moment se crée dans la tête, et puis après, bah, il suffit de bouger la caméra, de faire bouger les personnages, et des histoires se disent. Mais c'est aussi pour ça que cette collection est née, c'est parce que tous, au niveau du collectif, on a un rapport à l'image très fort. Même moi, qui suis auteur, enfin, qui m'anime, moi.
Tu as travaillé donc avec Laura sur quelques titres de la collection, puis avec Bruno aussi, hein, avec Bruno Loret. Donc, est-ce que ça s'est passé de la même manière, c'est-à-dire une inspiration qui naît à partir d'un corpus d'images comme ça? Vous avez travaillé ensemble pour, puisque vous connaissiez avant de faire les ouvrages, vous triez les images ensemble avant, vous essayez de voir comment vous pourrez interagir ou c'est la même règle?
On travaille très différemment quand c'est moi qui dois enfiler, enfin mettre les chaussures d'un plasticien, ou quand on travaille avec un auteur ou un plasticien extérieur. Quand c'est quelqu'un d'extérieur, on essaye de faire qu'il ne se rencontre pas.
Ça marche très bien.
Ça marche bien, oui.
On les enferme chacun d'un côté, on cloisonne bien pour qu'il n'y ait pas d'influence, pour qu'il n'y ait pas de gêne vis-à-vis de l'auteur. Parce que plus on parle d'un travail plastique, plus on a de clés, en fait, et moins on a d'inspiration. Ça ferme les portes, les clés, étrangement. Et par contre, quand c'est moi, comme je connais très bien effectivement les plasticiens du collectif, on en parle. C'est de la triche. Après, mon métier, c'est à la fois les sciences, mais il y a aussi le management de la créativité. Donc, je connais bien le processus, ce qui fait que je sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que j'aille trop triturer. Justement, pas que ça me ferme le robinet à mots, en fait. Mais effectivement, on ne les choisit pas ensemble. On me demande mon avis. On me dit voilà. Mais je me permets pas de dire aux plasticiens quelles sont les images qui doivent être impérativement dans le livre. Je peux dire ça j'aime moins. Je me permets encore moins de dire à Philippe, qui lui fait le choix final, non, ça, j'en veux pas. Non. On est chacun libre.
Je voulais juste dire un truc sur les blagues qu'ils nous font et que nous fait Philippe en particulier, que moi j'ai trouvé assez surprenant. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai eu un ensemble d'une trentaine de tableaux et je les ai pris quand même un par un. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de séquences que j'ai écrites qui sont en relation avec une histoire. Et quand ça a été composé après, et c'est pas évident quand on participe à un projet... qu'on a tendance à imaginer classique ou simple. Et en fait, Philippe a fait un travail de déconstruction, c'est-à-dire qu'il a enlevé un certain nombre de tableaux dont j'étais partie, il en a rajouté au moins un ou deux que j'avais jamais vus, et il a cassé tout ce qui aurait pu sembler naturel en termes de face-à-face, image et texte. Ou disons que ça n'arrive que très anecdotiquement. Donc... à l'arrivée, avec ce travail de composition, il y a un troisième intervenant qui rebrasse encore et qui change vraiment la donne et qui rajoute son sens, qui n'est pas le sens le plus simple.
C'est la même chose pour moi, j'ai vu apparaître des poupées que j'avais jamais vues, mais encore. Donc ça proliférait dans les pages. Voilà.
Pierre, comme il a décrit quand même pas mal de figurines, on a été quand même obligé, quand même, non, de respecter quand même certaines, parce que quand on lisait le texte et qu'il y avait la description du poupée, il fallait qu'elle soit en face pour qu'on ait envie, on avait envie de la regarder. Et à chaque fois qu'on lit un mot ou une description, du coup, on regarde si ça correspond vraiment à l'image. Elle a vraiment un bras en moins. Voilà, donc c'était aussi obligé de, en tout cas, tout le début de la nouvelle, de prendre ce chemin-là. Après, c'est vrai que, comme j'arrête pas d'en faire et qu'il y en a toujours des nouvelles, il y en a beaucoup qui se sont rajoutées, effectivement.
Mais j'étais très content de ça. Hein. Il a tout le travail se continuer.
Il n'y a pas plusieurs.
Un livre sans mouvement, c'est
ça. Oui, je voulais rajouter que finalement, le plus important, c'est le livre. C'est pas l'auteur, c'est pas le plasticien, c'est pas non plus le graphiste, c'est le livre. Et moi, en tant que peintre, j'avais justement envie que mes peintures, mes dessins, la représentation de ceci, parce que dans une image en 2D, on n'a pas la matière quand même, il ne faut pas oublier. Je ne voulais pas que ces images soient détruites, mais je voulais qu'elles soient utilisées différemment. Et en fait, ma peinture, mes dessins ne devenaient qu'un outil. Et c'est de même que le texte, je pense, excusez-moi, mais peut-être n'est qu'un outil aussi pour une finalité qui va bien au-delà de cette première problématique.
Oui, c'est vrai qu'il y a un travail de mise en page et de mise en scène dans ces livres à travers des recadrages, des images. Hein, on n'est pas dans de l'illustration juste qui est posée comme ça platement. Donc il y a tout un travail artistique et aussi éditorial hein, à travers l'ouvrage qui est assez étonnant puisqu'on va avoir, on n'est pas dans des ouvrages classiques avec une page de texte, une image, une page de texte, une image, puisqu'on va avoir parfois plusieurs pages d'images, enfin plusieurs pages pleines images, du texte. Enfin voilà, donc il y a un travail effectivement qui est assez particulier. Est-ce qu'on peut peut-être aussi vous interroger sur la suite, puisque là, les petites bulles sont au numéro 10, on est après cette campagne de crowdfunding que vous avez rencontré, puis aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de rencontrer un lectorat, de rencontrer des gens qui soutiennent le projet. Comment vous vous projetez dans les centaines d'années à venir,
enfin, puisqu'on parle de science-fiction, allons-y. Si on veut vraiment être dans le délire science-fiction, on continue. Après, on s'interroge sur une autre collection, une deuxième collection, qui sera en parallèle des petits bouts de l'univers. Les petits bouts de l'univers, donc, c'est art plastique, littérature. Et là, on s'interroge sur une collection qui serait plus science et littérature. C'est-à-dire qu'on partirait d'un texte écrit par... Cette fois-ci, on partirait de l'auteur. D'un auteur qui écrit un texte assez librement, et on demanderait à un scientifique de faire une exégèse, une vulgarisation assez fun. Donc là, on réfléchit à ça, et puis après, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est des ouvrages qui prennent beaucoup de temps. À chaque fois, c'est un an de travail, donc on ne peut pas en faire. C'est vrai qu'on a choisi, c'est un suicide commercial, il faut le dire. On a choisi tout ce qui va bien, c'est-à-dire qu'il faut un an pour faire, c'est parfois deux ans de travail pour un plasticien. Le texte, effectivement, je sais pas vous, mais ça peut venir assez vite. C'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui prend le plus de temps, c'est le travail du plasticien, la mise en page. Et puis après, le fait de faire l'ouvrage, c'est assez rapide. Mais c'est vrai que c'est une collection qui demande un gros investissement en temps. Il faut repérer les auteurs, repérer aussi les plasticiens. Il faut trouver les bons auteurs. On a lancé un certain nombre de projets qui n'ont pas abouti. Pas parce que les auteurs étaient mauvais, hein, mais parce que c'est des couples. À chaque fois, c'est un mariage. Les bois, ils sont tous les quatre. On voit bien qu'ils... C'est des couples qu'il faut trouver. C'est-à-dire que si le plasticien, son travail nous parle au collectif. Il faut qu'on sente chez l'auteur une fibre, une sensibilité aux arts plastiques et puis une sensibilité, une ouverture particulière. Et des fois, ça ne marche pas. Là, on a deux beaux mariages, deux beaux exemples d'union qui ont réussi.
Pierre ?
Oui. Juste parler de la relation du texte et de l'image encore, parce que par rapport à ce que dit Sylvie tout à l'heure, c'est vrai que quand on adapte un film ou une BD d'un texte pur, il y a une tendance à la déception parce qu'on s'est créé un imaginaire propre et que c'est des bouts, c'est un terroriste qui nous impose son imaginaire. Donc c'est comme ça que vous devez voir la chose et pas autrement. Donc c'est un peu désagréable parce que le texte a une puissance évocatrice à nul autre pareil et c'est inégalable. C'est ce qui traverse le temps aussi. Donc partir de l'autre versant, c'est-à-dire de l'image, ça change complètement la donne. Et ça, paradoxalement, ça donne une grande liberté. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un texte qui ne fasse pas redondance avec l'image, mais qui apporte quelque chose à l'image. Donc c'est un travail qui est complètement différent.
Peut-être, est-ce que vous pouvez dire un mot aussi sur cette campagne de financement participatif ? Est-ce que, parce que c'était la première fois que vous faisiez ça ? On parle beaucoup de, je reviens un peu terre à terre, hein, mais sur la question de, notamment des modèles économiques de la culture, comment aujourd'hui on peut vivre de son art, comment on peut vivre en tant que plasticien, en tant qu'auteur, écrivain. Le financement participatif, on présente ça souvent comme une des nouvelles façons de réussir à produire et à vivre de ses créations. Qu'est-ce que vous en pensez de cette expérience ?
Alors, on va parler franchement.
Allons-y.
Soyons francs, sincères, honnêtement. On a perdu d'autres distributeurs.
À cause de ça ? Non, c'était avant.
Avant. Et donc, du coup, on s'interrogeait à savoir comment communiquer, comment atteindre le public. Et le crowdfunding, ça permet d'atteindre le public. Le but, c'était pas forcément d'aller chercher l'argent. Le but, c'était d'aller chercher les gens. Et pour ça, un crowdfunding, c'est l'idéal. Ça permet de communiquer. Alors, c'est beaucoup de travail hein, pour ceux qui se lanceraient tout de suite. À 6, il faut bien une personne à temps plein sur un crowdfunding. Mais c'est un outil bon, qui n'est pas pour tous les ouvrages. Hein. Quand on fait quelque chose de particulier, comme ici, là, c'est à la fois le numéro 10, mais il y a aussi un coffret, un ouvrage d'art, un véritable coffret d'art qui coûte beaucoup plus cher. Pour un investissement de 3, 4 000, 5 000 euros, c'est peut-être beaucoup de travail. Par contre, pour aller chercher 10, 15 000, effectivement, là, c'est un outil très utile. Et ça permet de communiquer, et ça permet d'aller chercher les gens et de distribuer, en fait. Alors, on est soi-même son distributeur à travers le crowdfunding.
Oui, c'est ça. Ça a permis de dépasser, en fait, ce problème de distribution, qui aujourd'hui est résolu, je crois.
En partie
résolu. Bien. Donc, le 11e petit bulle, on peut se dire que c'est dans un an, à peu près ?
Oui.
Il faut qu'on se repose.
Et on vient juste de faire. Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend 3-4 mois de vacances, on pense à autre chose pendant 3-4 mois, et puis après, en fonction de si. Alors, forcément, au niveau des plasticiens, on sait que certains sont presque prêts pour le prochain.
Ils sont dans la salle ?
Oui, ils sont cachés.
On va se reconnaître alors.
Et puis après, les auteurs, c'est aussi. Au fil des rencontres, au fil des découvertes, moi je lis beaucoup. En tant qu'auteur de science-fiction, on est obligé de lire ce que c'est écrit à la concurrence.
Les amis à la concurrence.
Je suis obligé.
Au moins, obligé. C'est, au moins les amis.
Les autres salopards.
Et il y a des mamans, il y a des plumes qui me parlent. Et j'ai envie de. Après, il y a des rencontres. Quand on connaît les gens, on sait, on a envie de travailler avec eux. C'est une collection qui est autour de rencontres, autour de gens qui s'apprécient, qui prennent plaisir à travailler entre eux.
Est-ce que tu penses que cette expérience pluridisciplinaire, on va dire, avec un plasticien, ça te nourrit aussi pour ton propre travail littéraire ?
Oui.
Dans tes romans, dans tes nouvelles, c'est aussi quelque chose qui t'inspire ?
Oui. Déjà, le fait de parler un peu des arts plastiques avec quelqu'un qui manie les mots. Parce que je parle toujours des arts plastiques avec des gens qui en parlent de façon très... c'est pas négatif, hein, ce que je veux dire. Au contraire, j'aimerais pouvoir parler simplement. Le problème des auteurs, c'est que des fois, ils sont un peu complexes. Mais parler viscéral. Sans intellectualiser, sans mettre des concepts, sans commencer à raconter des histoires et à dire voilà, il y a un personnage, il va faire ci, celui-ci va mourir à la page, voilà. C'est pas du tout ça, c'est vraiment le ressenti. Et ça fait du bien de pouvoir du coup avoir la même approche avec un auteur qui. Du coup, on s'ouvre un peu à d'autres gens. Je sais que Sylvie, par exemple, t'es sortie complètement de la science-fiction avec ce texte. Et on a des retours, du coup. Et moi, ça m'a permis aussi de sortir de la science-fiction. J'écris uniquement de la science-fiction et du fantastique. Et là, j'ai toujours écrit que du conte philosophique pour organique.
Moi, en ce moment, je suis en recherche d'expériences que j'ai jamais faites, hein, de plus en plus, et le plus surprenante possible.
C'est un appel.
Ça reste relativement littéraire pour l'instant. Bon, rien n'est exclu.
Ça sortait du cœur, hein, en même temps.
Mais c'est vrai. Parce que sinon, bon, on se laisse tous enfermer dans nos zones de confort, les trucs qu'on sait à peu près faire, et inévitablement, on prend de moins en moins de risques et on se fait de moins en moins de plaisir. Et moi, je fais des trucs que j'aurais jamais imaginé faire en ce moment.
Expliquez-nous, alors.
Je ne sais pas si je peux, mais enfin bon, c'est vrai que pour en revenir à la collection, pour avoir été quelques fois sur des stands avec Laura, avec l'ICAM, avec Manu, c'est rigolo de voir des familles s'approcher avec des enfants. Oh, viens voir, il y a des livres avec des images. S'approcher, regarder Laura d'un air un petit peu inquiet et finir par dire « Vous êtes sûr que c'est pour les enfants ?» Donc voilà, je n'en dirai pas plus sur les expériences.
Mais... Pierre, ça vous inspire un commentaire ou pas du tout?
Pour les expériences... Ah oui, c'est tout.
C'était déjà pas mal.
Je sais plus de quoi ça parlait déjà. C'était à propos de.
Les expériences.
Ah oui. C'est important ça parce que retrouver le jaillissement spontané des premiers temps, c'est très très dur, de plus en plus dur au fur et à mesure qu'on s'installe dans l'écriture et qu'on écrit des bouquins et des bouquins et des bouquins et que effectivement quand on est en difficulté dans un livre, on se raccroche aux branches, c'est-à-dire à ce qu'on sait faire et on a tendance à reproduire des schémas. Donc c'est toujours intéressant, encore une fois, la provocation, pour sortir des sentiers battus, c'est très important parce qu'on a besoin de retrouver en permanence, c'est un équilibre délicat à trouver entre le jaillissement et le métier qui s'installe un peu insidieusement, et puis le petit machin qui est sur l'épaule et qui dit «
Ouais, c'est pas bien ce que tu fais !»
Et qui est une sorte de censeur qu'il faut boucler en permanence et qui est de plus en plus présent au fur et à mesure de l'écriture. Donc voilà, c'est le côté plastique nous permet justement de sortir de ça, de retrouver ce jaillissement. Après, est-ce que c'est utile pour le reste de ce qu'on écrit? Oui, bien sûr. Dès qu'on retrouve ça, cette spontanéité-là, et ben, ça relance un peu la mécanique.
Très bien, je vois que l'hélico approche.
C'est pour retirer les malades qui sont ici. Voilà. En tout cas, je constate avec plaisir qu'on a prononcé un nom 24 plus de fois en science que personne ne s'est levé en courant.
Peut-être.
Ça évolue.
Ouais, le monde change.
Non, parce que par rapport au bouquin où les parents disent c'est pour les enfants, les bouquins de science-fiction, les gens dans les salons, ils arrivent, ils font un grand détour.
C'est la science-fiction.
Et
c'est
juste pour retrouver l'auteur raisonnable d'à côté qui lui crée des histoires contemporaines. Comme si les romans de science-fiction, les ouvrés, ils étaient radioactifs, et ils le sont. Hein.
Bon, on va avoir l'occasion de le découvrir tout à l'heure, puisque on va bientôt s'arrêter et qu'on va avoir une séance de dédicace, de remise des contreparties au Kissmarker. C'est que donc on va pouvoir découvrir cette radioactivité. Juste avant, y a-t-il quelques questions, interventions, commentaires, digressions que certains d'entre vous auraient envie de partager avec nous tous?
Non.
Ah bah voilà.
Plein de questions d'un coup.
Je ne sais pas si mon fil sera assez long.
Voilà, vous avez fait un travail sur la relation entre l'écriture et le graphisme. Je sais qu'il y a des Damasio par exemple a fait des bouquins avec des CD à côté. Est-ce que vous pensez, je sais pas, par exemple partir de la musique pour passer
On en parlait avec Mathias des éditions La Volte, chez qui Alain Damasio a publié. Et c'était l'un de nos premiers. Ben, on n'a pas de livre là sur la table, c'est dommage. Mais en fait, il y a un rond. C'est un livre carré avec un rond au milieu. Et le rond, ça rappelle le disque en fait. Parce qu'on était un label de musique au début. Et c'est vrai que la première idée qu'on avait, c'était d'insérer un CD là au milieu.
Voilà, un exemple.
Tu
choix.
Non, non.
C'est un très bon choix dans la collection.
Un très bon livre, un boxing dance. Ouais, donc d'un CD, le CD ici. Là.
C'est même un double album.
Voilà. Et on ne l'a jamais fait parce que c'est déjà très compliqué de marier un auteur avec un plasticien. Alors si en plus on doit rajouter, faire un ménage à trois avec un musicien.
Ça pourrait venir
si on a un auteur qui est aussi musicien ou si on a un plasticien.
Moi, je suis pour l'expérience.
vous avez une auteure qui est intéressée.
Pour le ménage à trois.
C'était donc ça.
C'est un début.
C'est voilà, un premier pas. C'est un projet qu'on a, effectivement. Didier y tient, on y tient tous. Hein. Alors, réussir à passer ce cap, c'est-à-dire à faire trois dimensions, parce que c'est aussi pour ça que ça s'appelle Petite Bulle d'Univers, c'est qu'il devait y avoir trois dimensions. C'est pas une petite sphère, c'est pas un petit cercle, c'est une petite bulle. Et la troisième dimension, c'est effectivement la musique, qui est un peu passée à la trappe, mais on y tient. On a quelques projets, quelques réflexions qui intègrent des auteurs qui sont également musiciens.
On a hâte de voir ça et d'entendre ça. Il y avait une autre question au fond, mais là, il va falloir parler fort. Est-ce que je me
Non, pas celui-là.
Ah bah oui, attends,
celui-là.
Ah non, faut pas.
En fait, c'était pas une question, c'était juste que je trouvais que souvent le graphisme dans les éditions écrites sont quelque chose, je dirais pas, c'est pas anecdotique, mais c'est quelque chose de complément. C'est un art de complément. Et ce que je trouve intéressant là, c'est que ce n'est pas le cas. C'est que c'est vraiment mis à égalité et c'est même le point de départ. Donc pour moi, il y a un équilibre qui est à nouveau là, qui n'est pas toujours là quand c'est une œuvre avec un dessin. Quand ce n'est pas uniquement l'œuvre en elle-même qui est précise et qui est mise en valeur. Et souvent, on a vraiment quelque chose qui est simplement commenté. Donc, d'où, en effet, la réflexion que vous faisiez sur ne pas être redondant avec l'œuvre. Mais l'inverse aussi se voit très souvent quand il y a un texte écrit avec des illustrations où il y a redondance très fréquemment. Et là, je trouve que justement, ce n'est pas le cas puisque l'œuvre a vraiment la part belle. Et pour moi, c'est donc des bouquins qui peuvent s'adresser aux adolescents. Donc peut-être pas en effet aux enfants, mais par contre, je trouve que pour les ados, c'est assez chouette.
Oui, c'est vraiment ce qu'on voulait, c'est la rencontre de deux univers, en fait. L'univers d'un plasticien et l'univers d'un auteur. Il n'y a pas à avoir un univers qui phagocyte l'autre.
Donc à recommander aux ados, Petite Bulle d'Univers.
La dame qui veut poser une question.
Moi, c'était par rapport au titre qui m'a vraiment interrogée, parce que dans Boxing, il y a en même temps le point de vue de celui qui met en boîte, qui met des poupées en boîte, et avec ce ing, voilà. Et puis, il y a aussi le sens, les poupées qui font de la boxe, quoi, qui... Ça m'a interrogé, ça.
Ça vous a frappé, peut-être.
Voilà. C'est le mot que je cherchais. Hein. Merci. Voilà. Donc, je pense que ça peut être intéressant de mettre les deux choses en regard.
Oui, mais c'est un petit peu l'idée. On a eu un petit problème pour le titre. Certains de mes nouvelles et certains de mes livres, j'ai le titre avant. Donc, ça, c'est facile. Parfois, je l'ai pendant. Ça reste facile. Parfois, je l'ai après. C'est OK. Parfois, je ne l'ai pas du tout après, et c'est l'éditeur qui s'en mêle. Là, c'est une catastrophe en général. Pour Boxing Doll, on a essayé de réfléchir, et puis j'ai proposé. Et puis Boxing Doll m'est venu presque. Parce qu'effectivement, il y a un double sens, mise en boîte et boxe. Et que j'avais été frappé vraiment au cœur par le travail de Laura, et que donc, ça correspondait aux deux, à l'enfermement et au coup de poing. Je ne m'en dirai pas plus, même sous la torture.
Laura, toi, par rapport au titre, tu as un commentaire à faire ou...
Au début, je me suis dit, mais pourquoi c'est en anglais, quoi? Parce que je suis pas bonne en anglais, peut-être. Et puis, après, je me suis dit, de toute façon, Moi, je fais des poupées qui sont en perte de liberté, et l'auteur a toute la liberté d'écrire ce qu'il veut. Et son titre, comme c'est lui qui l'a choisi, il est forcément bien. Voilà.
Mais c'est mon premier titre anglais.
En plus.
Parce que j'ai essayé poupées en boîte, poupées qui boxent dans les boîtes, ça, c'est un peu moins rapide. Je trouvais que la sonorité était quand même pas mal, mais j'en avais proposé une petite liste et c'est en dernier ressort, c'est quand même Organique qui a décidé. Donc c'est vous les responsables.
Moi je m'indigne absolument parce que personne ne m'avait dit que l'auteur avait le droit de choisir le titre. Donc c'est l'éditeur qui l'a choisi et ça m'allait très bien.
Sylvie, on travaille toujours avec plus ou moins un thème en tête pour nous réduire un peu le champ d'investigation. Et Sylvie, on était sur le rapport entre l'animal et l'homme. Et quand elle a livré son texte, quand on l'a lu, on s'est dit c'est l'animal et l'homme dans son essence la plus l'homme-animal. Et il y avait une telle dynamique entre les images et le texte. C'était évident, le titre c'était l'animal. Donc Sylvie, c'est vrai, elle n'a pas eu trop son mot à dire, mais en même temps, elle l'a pas trop dit. Donc...
Bah non, mais ça m'a fait.
si tu avais hurlé, je pense qu'on aurait réfléchi.
C'est vrai que les titres c'est extrêmement important parce que ça parle ou ça parle pas, quoi. Et quand on n'a pas son titre en tant qu'auteur, on n'a pas son titre évident, je vais reparler d'Ange de l'Abîme. J'avais pas le titre et on a réfléchi avec Marie Mazorik, l'éditrice du Diable Vauvert, et elle voulait les anges de l'Apocalypse. Et moi, je ne voulais pas ce titre parce que les anges de l'Apocalypse, ça fait bateau pour moi. Donc j'ai cherché, je l'ai appelé, je dis j'ai trouvé l'ange de l'abîme. Elle me dit c'est nul. Je dis non, mais c'est le titre que je veux. Et puis elle me rappelle deux jours après en me disant t'as raison, c'est bien.
Des gens qui réagissent comme ça à la surprise. C'est nul.
Bon, allez, comme dit Laura, d'autres interventions? D'autres questions? Non? On peut continuer, hein, de façon informelle, autour des tables de dédicaces, et puis je crois qu'il y a un petit pot qui nous est préparé. Bah, écoutez, un grand merci à toutes et à tous. Merci à nos intervenants pour qu'on peut les applaudir.